Empêcher la catastrophe que représentait le retour des Néantifères était un devoir encore plus grand que protéger ses frères. Il lui était toujours douloureux de l'admettre. Jasna l'étudia. « Pour ce qui est de votre famille, Shallan, j'ai pris des mesures. »«
Des mesures ?»
s'enquit Shallan en lui prenant le bras.
« Vous avez aidé mes frères ?»«
D'une certaine façon, » répondit Jasna. « L'argent ne résoudrait pas réellement le problème, je le crois, même si j'ai fait en sorte qu'un petit cadeau leur soit envoyé. D'après ce que vous m'avez dit, les problèmes de votre famille ont deux causes. Premièrement, les sangs des spectres désirent que leur spiricante, que vous avez cassée, leur soit rendue. Deuxièmement, votre maison se retrouve sans alliés, submergée par les dettes. » Jasna lui tendit une feuille de papier. « Ceci, poursuivit-elle, provient d'une conversation que j'ai eue ce matin avec ma mère par Ekokalam. » Shallan parcourut la page et il eut une explication de Jasna vis-à-vis du spiricante brisé, ainsi qu'une demande d'aide.
« Ça se produit plus souvent qu'on ne le croirait », avait répondu Navani. « Ce dysfonctionnement est sans doute lié à l'alignement des montants des gemmes. Apporte-moi l'appareil et nous verrons bien. »
« Ma mère, reprit Jasna, est une artifabrienne de renom. Elle saura certainement réparer le vôtre. » Nous pourrons l'envoyer à vos frères, qui le rendront à ses propriétaires.
« Vous me laisseriez faire ça ?»
demanda Shallan. Depuis le début de leur traversée, Shallan avait prudemment tenté de lui soutirer d'autres informations sur la secte, espérant comprendre son père et ses motivations. Jasna affirmait savoir très peu de choses à leur sujet, en dehors du fait qu'ils convoitaient ses recherches et qu'ils étaient prêts à tuer pour se les procurer.
« Je n'ai pas particulièrement envie qu'ils accèdent à un appareil aussi réplica, » répondit Jasna. « Mais je n'ai pas le temps de protéger directement votre famille en ce moment. C'est une solution viable, à supposer que vos frères parviennent à gagner encore un peu de temps. Conseillez-leur de dire la vérité si nécessaire. Que vous êtes venu me trouver, sachant que j'étais une érudite, et m'avez demandé de réparer le spiricante. Peut-être que ça les apaisera pour l'instant. »
« Merci, Clarissime. »
Sainte Bourrasque. Si elle était simplement venue parler à Jasna dès le départ, après qu'elle l'avait acceptée comme pupille, dans quelle mesure les choses auraient-elles été plus faciles? Shallan baissa les yeux vers le papier, remarquant que la conversation s'y poursuivait. « Quant à l'autre sujet, écrivait Navani, cette suggestion me plaît beaucoup. Je crois pouvoir convaincre le jeune homme d'y réfléchir au minimum, dans la mesure où sa dernière aventure s'est terminée très brutalement, comme souvent chez lui, en début de semaine.
De quoi parle cette deuxième partie ?
S'enquit Shallan en levant les yeux de la page. Apaiser les sangs des spectres ne suffira pas à sauver votre maison, répondit Jasna. Vos dettes sont trop importantes, surtout dans la mesure où les actions de votre père lui ont aliéné tant de gens. Par conséquent, j'ai arrangé une alliance puissante pour votre maison.
Une alliance? Comment ça?
Jasna prit une profonde inspiration. Elle semblait réticente à s'expliquer. J'ai entrepris les premières démarches pour arranger vos fiançailles avec l'un de mes cousins, le fils de mon oncle Dalinar Colline. Le jeune homme s'appelle Adoline. Il est séduisant et il s'y connaît en conversation courtoise.
Des fiançailles? Répéta Shallan. « Vous avez promis ma main ?»«
J'ai initié le processus, » précisa Jasna avec une anxiété peu commune chez elle. Même s'il manque parfois de vision à long terme, Adoline a bon cœur, tout autant que son père, qui est peut-être le meilleur homme que j'ai jamais connu. On le considère comme le meilleur parti d'Aletkar, et ma mère veut le voir marié depuis longtemps.
« Des fiançailles, »
répéta Shallan. « Oui. » Est-ce que ça vous est pénible ?
C'est formidable !
S'exclama Shallan en serrant plus fort le bras de Jasna.
Tout deviendrait si facile ! Si je suis mariée à quelqu'un de si puissant, Bourrasque, plus personne à Jacquéved n'osera nous toucher. Ça résoudrait une grande partie de nos problèmes. Clarissime Jasna, vous êtes géniale !
Jasna se détendit visiblement. Oui, eh bien, ça semblait une solution viable. « Je m'étais toutefois demandé si vous en prendriez ombrage.
Au nom des vents, pourquoi donc ?
À cause de la restriction de liberté qu'implique un mariage, répondit Jasna. Et puis, par ailleurs, parce que cette offre a été faite sans même vous consulter, je devais d'abord vérifier si cette possibilité existait. L'offre a progressé plus loin que je ne m'y attendais, car ma mère a sauté sur cette idée. Navani peut se montrer quelque peu envahissante.
Shalan avait du mal à imaginer quiconque envahir Jasna. Terre des tempêtes! Vous craignez que je sois offensée? Clarissime, j'ai passé ma vie entière enfermée dans le manoir de mon père. J'ai grandi en partant du principe qu'il choisirait mon mari.
Mais vous êtes libérée de votre père à présent.
Oui, et je me suis montrée d'une sagesse exemplaire dans ma propre quête de relation, répliqua Shalan. Le premier homme que j'ai choisi était non seulement un ardent, mais un assassin déguisé.
Ça ne vous dérange absolument pas ? Demanda Jasna. L'idée d'appartenir à quelqu'un d'autre, particulièrement à un homme ?
Ce n'est pas comme si j'étais vendue en tant qu'esclave, rétorqua Shalan en riant.
Non, sans doute que non. Jasna retrouva sa maîtrise. Dans ce cas, je vais informer Navani que vous êtes favorable à cet arrangement et nous devrions mettre en place un casuel dans le courant de la journée.
Un casuel. Des fiançailles conditionnelles selon la terminologie vorine. Elle serait techniquement fiancée, mais n'aurait aucune position légale jusqu'à ce qu'un acte officiel de fiançailles soit signé et authentifié par les ardents.
Le père d'Adeline a déclaré qu'il ne l'obligerait à rien, expliqua Jasna, même si le garçon est célibataire depuis peu, car il est encore parvenu à offenser une jeune fille. Quoi qu'il en soit, Dalinar préférerait que vous vous rencontriez tous les deux avant que l'on officialise quoi que ce soit qui vous lie de manière plus ferme. Il y a eu des changements dans le climat politique des plaines brisées. Une grande perte pour l'armée de mon oncle, une raison de plus pour nous dépêcher de rejoindre les plaines.
Adeline Colin, répondit Shalan, qui ne l'écoutait que d'une oreille. Un duelliste de très haut niveau, et même un porte-éclat.
Ah! Donc vous prêtiez vraiment attention à vos leçons au sujet de mon père et de sa famille.
En effet, mais j'avais entendu parler de votre famille avant ça. Les Aletis sont le centre de la société. Même les filles des maisons rurales connaissent le nom des princes Aletis, et ce serait mentir que de nier avoir rêvassé dans sa jeunesse qu'elle en rencontrerait un. Mais, clarissime, êtes-vous certaine que cette alliance soit judicieuse? Enfin, je ne suis pas vraiment la personne la plus importante au monde.
En effet. La fille d'un autre haut prince aurait peut-être été préférable pour Adeline. Cependant, il semblerait qu'il soit parvenu à offenser absolument toutes les jeunes filles à marier de ce rang. Ce garçon est, dirons-nous, un peu trop avide en matière de relations. Mais rien d'insurmontable, j'en suis certaine.
« Père des tempêtes ?» déclara Shalan, qui sentit ses jambes flageoler. « C'est l'héritier d'une principauté. » Il fait partie des héritiers du trône d'Aletkar.
Il est troisième dans l'ordre de la succession, répondit Jasna, derrière le fils en bas âge de mon frère et mon oncle Dalinar.
Clarissime, je dois vous poser une question. Pourquoi Adeline? Pourquoi pas son jeune frère? Je n'ai rien à offrir à Adeline, ni à leur maison.
Bien au contraire, répliqua Jasna. Si vous êtes ce que je pense, vous serez en mesure de lui offrir ce que personne d'autre ne pourra. Quelque chose de plus important que la richesse.
« Et que pensez-vous donc que je sois ?»
chuchota Shalan en croisant son regard, posant enfin la question qu'elle n'avait osé formuler. « Pour l'heure, vous n'êtes encore qu'une promesse, » répondit Jasna. « Une chrysalide qui renferme un potentiel de grandeur. Autrefois, quand les humains et les sprennes se sont liés, sont apparues des femmes qui dansaient dans les cieux et des hommes capables de détruire des pierres d'un seul toucher.
Les radieux enfuient, traîtres à l'humanité.
Elle ne parvenait pas à absorber tout ça. Les fiançailles, Shadesmar et les sprennes, et maintenant cette mystérieuse destinée qui était la sienne. Elle l'avait su, mais le prononçait tout haut. Elle se laissa glisser sur le pont, sans se soucier d'y mouiller sa robe. Et s'assit dos au bastingage. Jasna lui laissa le temps de se calmer avant de s'asseoir à son tour, ce qui surprit Shallan. Elle le fit avec nettement plus de grâce, ramenant sa robe sous ses jambes qu'elle replia sur le côté pour s'installer. Toutes deux s'attirèrent les regards des marins.
« Ils vont me tailler en pièces, » reprit Shallan. « La cour à Leti, c'est la plus féroce au monde. »
Jasna ricana. « Ce ne sont que rafales qui se voudraient tempête, Shallan. Je vous formerai. »
« Je ne serai jamais comme vous, Clarissime. Vous possédez le pouvoir, l'autorité, la richesse. Regardez simplement comment les marrons se comportent face à vous. »
« Suis-je en train d'utiliser le pouvoir, l'autorité ou la richesse en question en ce moment même ?»«
Vous avez payé ce voyage. »«
N'avez-vous pas payé plusieurs traversées sur ce navire ?» demanda Jasna. « Ne vous ont-ils pas traité de la même manière que moi ?»«
Non. » « Oh, il m'apprécie beaucoup, mais je ne possède pas votre poids, Jasna. »
« Je vais partir du principe que votre remarque ne concernait en rien mon tour de taille, » répliqua Jasna, esquissant un sourire. « Je comprends votre argument, Shallan, mais il est totalement faux. » Shallan se tourna vers elle. Jasna était assise sur le pont de ce navire comme sur un trône, le dos bien droit, la tête relevée, pleine d'autorité. Shallan se tenait assise, les jambes contre la poitrine, qu'elle entourait des deux bras en dessous des genoux. Même leur façon de s'asseoir différait. Elle ne ressemblait en rien à cette femme. « Il y a un secret que vous devez apprendre, mon enfant, » déclara Jasna. « Un secret encore plus important que celui lié à Shadesmar et Ospren. Le pouvoir est une illusion de perception. » Shallan fronça les sourcils. « Ne vous méprenez pas, » poursuivit Jasna. « Certains types de pouvoirs sont réels. Celui de commander aux armées, celui de spiricanter. Cela entre bien plus rarement en jeu que vous ne pourriez le croire. Sur une base individuelle, dans la plupart des interactions, cette chose que nous appelons le pouvoir, l'autorité, n'existe que tant qu'elle est perçue. Vous dites que je possède la richesse. C'est vrai. Mais vous avez également constaté que je ne m'en servais pas souvent. Vous dites que je possède l'autorité en tant que sœur d'un roi. C'est vrai. Et cependant, les hommes présents à bord de ce navire me traiteraient exactement de la même manière si j'étais une mendiante qui les avait persuadés que j'étais la sœur d'un roi. Dans ce cas, mon autorité n'a rien de tangible. Ce n'est qu'un rideau de fumée, une illusion. Je peux créer cette illusion à leur égard. Et vous le pouvez aussi.
Je n'en suis pas persuadée, Clarissime.
Je sais. Autrement, vous l'appliqueriez déjà. Jasna se leva et épousseta sa jupe. Me préviendrez-vous si vous revoyez ce motif, celui qui est apparu sur les vagues ?
Oui, Clarissime,
répondit distraitement Shallan. Dans ce cas, prenez le reste de la journée pour vous consacrer à vos dessins. Je dois réfléchir à la meilleure manière de vous enseigner ce que je sais sur Shadesmar. Elle se retira, accueillant d'un signe de tête les révérences des marins sur son passage, et redescendit sous le pont. Shallan se leva, puis se retourna et saisit la rambarde, une main de chaque côté du beaupré. L'océan se déployait devant elle avec ses vagues ondulantes, dégageant une odeur piquante et froide. Les vagues venaient s'écraser contre le canot avec des bruits réguliers. Les paroles de Jasna se livraient combat dans son esprit, comme des anguilles célestes, se disputant à un rat. Despren possédant des cités. Shadesmar, un royaume qui se trouvait ici, mais qui était pourtant invisible. Shallan, soudain fiancé au célibataire le plus important au monde. Elle quitta la proue et longea le bord du navire, laissant traîner sa libre main sur la rambarde. Comment les marins la considéraient-ils ? Il lui adressait des sourires, des signes de la main. Il l'appréciait. Yalb, nonchalamment suspendu au gré aimant non loin de là, l'appela pour l'informer qu'il y avait dans le prochain port une statue qu'il faudrait qu'elle aille voir. « Il s'agit d'un pied géant, jeune demoiselle. Rien qu'un pied. Ils n'ont jamais fini cette rafale de statue. » Elle lui sourit et poursuivit son chemin. Avait-elle envie qu'il la regarde comme Jasna ? Toujours effrayée, toujours inquiet de mal faire. Était-ce ça, le pouvoir ? Pendant ma traversée depuis Védénar, se dit-elle en atteignant l'endroit où sa caisse était attachée. Le capitaine m'encourageait constamment à rentrer chez moi. Il voyait ma mission comme inutile.
Tosbeck s'était toujours comporté comme s'il lui faisait une faveur en la transportant à la poursuite de Jasna.
Aurait-elle dû, pendant tout ce temps, avoir le sentiment de profiter de lui et de son équipage en les engageant?
D'accord, il lui avait proposé une remise parce qu'il avait déjà traité avec son père. Mais malgré tout, elle l'avait employé.
La façon dont il l'avait traité était sans doute caractéristique des marchands thaïlènes.
Si un capitaine parvenait à vous donner l'impression que vous l'exploitiez, vous seriez disposé à le payer davantage.
Elle l'appréciait, mais leur relation laissait à désirer. Jasna n'aurait jamais toléré qu'on la traite ainsi.
Le Centide nageait toujours à côté du navire. Il ressemblait à une minuscule île mobile au dos envahi d'algues, à la carapace hérissée de petits cristaux.
Shallan se retourna et se dirigea vers la poupe, où le capitaine Tosbeck s'entretenait avec un de ses seconds, désignant une carte couverte de glyphes. Il la salua d'un signe de tête.
« Une simple mise en garde, jeune demoiselle, » déclara-t-il. « Les ports deviendront bientôt moins accueillants. Nous allons quitter le détroit des longs sourcils et contourner le rivage oriental du continent en direction de la nouvelle Natanatan. Il n'y a rien d'intéressant entre ici et les cryptes superficielles, et même là-bas, il n'y aura pas grand-chose à voir. Je n'y laisserai pas débarquer mon propre frère sans garde. Pourtant, il a tué 17 hommes à main nue.
« Je comprends bien, capitaine, » répondit Shallan. « Et je vous remercie. Je suis revenue sur ma décision de tout à l'heure. J'ai besoin que vous arrêtiez le navire pour me laisser inspecter le spécimen qui nage près de nous. »
Il soupira et leva la main pour passer les doigts le long de l'un de ses sourcils en pointe amidonnée, un peu comme d'autres hommes joueraient avec leurs moustaches.
« Je vous le déconseille, clarissime. Père des tempêtes, si je vous laissais tomber dans l'océan... »«
Je me retrouverais mouillée, » rétorqua Shallan. « C'est un état dont j'ai déjà fait deux ou trois fois l'expérience. »
« Non, je ne peux absolument pas vous y autoriser. Comme je vous le disais, nous allons vous emmener voir des carapaces à... »«
Vous ne pouvez pas m'y autoriser ?» l'interrompit Shallan.
Elle le toisa avec une expression qu'elle espérait perplexe, en espérant qu'il ne remarquerait pas qu'elle crispait les poings le long de ses jambes. Nom des bourrasques, qu'elle détestait le conflit.
« Capitaine, j'ignorais avoir formulé une requête que vous aviez le pouvoir de m'accorder ou non. » « Arrêtez le navire et faites-moi descendre dans l'eau. C'est un ordre. »
Elle s'efforça de prononcer ces mots avec toute l'autorité qui aurait insufflé Jasna. Cette femme donnait l'impression qu'il était plus facile de résister à une tempête majeure que de lui tenir tête. Tosbeck remua un instant les lèvres en silence, comme si son corps cherchait à formuler son objection d'un peu plus tôt, mais que son esprit avait un temps de retard.
« C'est mon navire !» déclara-t-il enfin.
« Il ne lui arrivera rien, » l'assura Shallan. « Faisons vite, capitaine. Je ne souhaite pas retarder plus que de raison notre arrivée au port ce soir. »
Elle le planta là pour regagner sa caisse, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. Puis elle s'assit, en partie pour se calmer. Tosbeck se mit à donner des ordres d'une voix profondément agacée. On baissa les voiles, on ralentit le navire. Shallan expira et se sentit très bête. Cependant, les conseils de Jasna avaient porté leurs fruits. Le comportement de Shallan avait fait naître quelque chose dans les yeux de Tosbeck. Une illusion? Comme les Spren eux-mêmes, peut-être? Des fragments d'espérance humaine qui avaient pris vie? Le Centide ralentit avec eux. Nerveuse, Shallan se leva tandis que des marins approchaient, munis de cordes. À contre-cœur, ils formèrent une boucle à l'extrémité de l'une d'elles, de sorte que Shallan puisse y passer le pied, puis ils lui expliquèrent qu'elle devait s'accrocher très fort à la corde lorsqu'on la ferait descendre. Ils attachèrent solidement une deuxième corde plus petite autour de sa taille, celle par laquelle ils la tireraient ensuite sur le pont, trempée et humiliée. C'était inévitable, lisait-elle dans leur regard. Elle retira ses chaussures, puis monta sur la rambarde, comme on lui en donna la consigne. Le vent était-il aussi fort l'instant d'avant? Elle éprouva un bref vertige tandis qu'elle se tenait là, en chaussettes, sa robe flottant au vent. Un spren du vent s'approcha d'elle à toute allure, puis prit la forme d'un visage sur fond de nuages. Sainte bourrasque,
cette créature n'avait pas intérêt à s'en mêler. Était-ce l'imagination humaine qui avait conféré aux sprennes du vent cette étincelle espiègle? D'un pas hésitant, elle s'avança dans la boucle de corde que les marins placèrent près de ses pieds. Puis Yalb lui tendit le masque dont il avait parlé. Jasna remonta de sous le pont, regardant autour d'elle d'un air perplexe. Elle vit Shallan debout sur le bord du navire, puis releva un sourcil. Shallan haussa les épaules, puis, d'un signe, demanda aux hommes de la faire descendre. Elle s'interdit de se sentir idiote tandis qu'elle approchait petit à petit des eaux et de l'animal solitaire qui nageait parmi les vagues. Les hommes l'arrêtèrent à une cinquantaine de centimètres au-dessus de l'eau et elle enfila le masque, maintenu par des lanières qui lui couvrit la majeure partie du visage, y compris le nez.
« Plus bas !»
leur cria-t-elle. Il lui semblait percevoir leur réticence dans l'allure léthargique à laquelle la corde descendait. Son pied toucha l'eau et un froid mordant lui remonta le long de la jambe. Père des tempêtes. Mais elle ne leur demanda pas d'arrêter. Elle descendit encore plus bas jusqu'à ce que ses jambes soient plongées dans l'eau glaciale. Sa jupe se mit à gonfler d'une manière particulièrement agaçante et elle dut marcher sur l'ourlet, à l'intérieur de la boucle de corde, pour l'empêcher de se soulever jusqu'à sa taille et de flotter à la surface de l'eau lorsqu'elle s'y enfoncerait. Elle se débattit un moment avec le tissu en se réjouissant que les hommes, à bord du navire, ne la voient pas rougir. Mais la tâche devint plus facile quand le tissu se retrouva trempé. Elle parvint enfin à s'accroupir, s'accrochant toujours fermement à la corde et descendit dans l'eau jusqu'à la taille. Puis elle plongea la tête. La lumière tombait de la surface en colonnes chatoyantes. Il y avait ici de la vie, frénétique et stupéfiante. De minuscules poissons allaient et venaient à toute allure, picorant le dessous de la carapace qui abritait une créature majestueuse. Aussi noueux qu'un vieil arbre, avec la peau ridée et ondulée, le centide possédait la forme d'une bête munie de longs filaments bleus qui pendaient comme ceux d'une méduse, en beaucoup plus épais. Il disparaissait dans les profondeurs, traînant derrière la créature selon un angle oblique. La bête elle-même était une masse gris-bleu noueuse en dessous de la carapace. Sur le côté, des rides entouraient un œil immense, donnant à celui-ci un air très ancien. Son jumeau devait se trouver de l'autre côté. Le centide semblait pesant et cependant gracieux, muni de puissantes nageoires qui bougeaient comme des rames. Un groupe de sprennes étranges en forme de flèches se déplaçait dans l'eau tout autour de la bête. Des bancs de poissons filaient à toute allure. Bien que les profondeurs semblent vides, la zone qui entourait immédiatement le centide grouillait de vie. Tout comme la zone située juste en dessous du navire. De minuscules poissons picoraient le dessous du vaisseau. Ils se déplaçaient entre le centide et le navire, parfois seuls, parfois en banc. Était-ce pour cette raison que la créature nageait aux côtés d'un bateau? Une raison liée aux poissons et à leur relation avec ce navire? Tandis qu'elle étudiait la créature, son œil, aussi gros que la tête de Shallan, roula vers elle, se concentra et la vit. Shallan se retrouva alors incapable de sentir le froid, incapable d'éprouver de l'embarras. Elle contemplait un univers dans lequel, à sa connaissance, aucun érudit n'avait jamais pénétré. Elle cligna des yeux, capturant un souvenir de la créature qui lui permettrait de la dessiner plus tard.